Le devisement du monde de Marco Polo. Lu par Christian pour audiocité.net. Livre 2, chapitre 1. De la puissance et de la magnificence de Kubilai, très grand roi des Tartares. J'ai résolu de faire dans ce second livre la description de la pompe, de la magnificence, de la somptuosité de la puissance, des richesses et du gouvernement de l'empire de Kubilai, empereur des Tartares, qui tient présentement le sceptre. Car il surpasse de beaucoup tous ses prédécesseurs en magnificence et, dans l'étendue de son domaine, il a tellement reculé les limites de son empire qu'il tient presque tout l'Orient sous sa domination. Il est de la race de Chinchi, premier prince des Tartares. Il est le sixième empereur de cette monarchie, ayant commencé à régner l'an de notre Seigneur 1256 et gouvernant ses peuples avec beaucoup de sagesse et de majesté. C'est un homme vaillant et exercé aux armes, vigoureux de corps et d'esprit et prompt à l'exécution. Homme de conseil, avisé et circonspect dans le gouvernement de ses peuples. Car avant de monter sur le trône, il a souvent fait le devoir de bon soldat, en différentes occasions, et donné des marques de sa prudence. Mais, depuis qu'il est devenu empereur, il ne s'est trouvé qu'à une bataille, et il donne le commandement de ses armées à ses fils ou à quelqu'un de ses courtisans. Chapitre 2. De quelle manière le roi Kubilai a souffert la rébellion de son oncle Nayyam? Nous avons dit que le roi Kubilai ne s'est trouvé qu'une fois à la tête de son armée. Maintenant, il faut dire à quelle occasion. L'an de notre Seigneur 1286, son oncle, du côté paternel, nommé Nayyam, étant âgé de 30 ans et se voyant maître d'un grand peuple et de plusieurs pays, se trouva tellement enflé de vanité qu'il résolut de se révolter contre son seigneur Kubilai et mena contre lui une grande armée. Et pour mieux réussir dans son entreprise, il s'allia avec un roi nommé Kédou, qui était neveu de l'empereur Kubilai et qui le haïssait, de sorte que, pour appuyer sa rébellion, il lui promit de venir le joindre en personne à la tête de 100 000 hommes. Or, ils avaient résolu de s'assembler dans une certaine plaine avec leurs troupes pour faire une irruption sur les terres de l'empereur. Nayyam avait environ 40 000 hommes de troupes. Chapitre 3. De quelle manière Kubilai se précautionna contre ses ennemis. L'empereur, n'ignorant pas ce que ses parents machinaient contre lui, et avec quelle animosité ils étaient portés à conspirer contre sa personne et son état, jura par sa tête et par sa couronne impériale qu'il vengerait une si grande insolence et qu'il punirait une si noire perfidie. Après quoi, il assembla en 3 semaines une nombreuse armée composée de 360 000 cavaliers et de 100 000 hommes de pied qu'il tira seulement du voisinage de la ville de Kambalu. Et, quoiqu'il eût pu lever une plus grande armée, il ne voulut pas le faire pour être plus tôt en état de surprendre ses ennemis qui ne s'attendaient pas à une si prompte marche et de peur que sa résolution ne vînt à être connue de Nayyam, son ennemi, et qu'il ne se retranchât dans quelque lieu avantageux. L'empereur avait alors d'autres armées sur pied qu'il avait envoyées pour subjuguer différentes provinces et qu'il ne voulut point rappeler pour que son dessein ne fût découvert à l'ennemi. C'est pourquoi il envoya partout garder les chemins fort exactement afin que ses ennemis n'eussent pas le moindre vent de son arrivée. Car tous les passants étaient arrêtés par les gardes du roi afin que personne ne pût informer Nayyam des desseins de l'empereur. Les choses étant ainsi ordonnées, le roi consulta les astrologues pour savoir à quel jour et à quelle heure il devait partir afin d'avoir un heureux succès de son entreprise. Les astrologues l'assurèrent tous, d'une voix unanime, que son voyage serait heureux et que le temps lui était alors favorable pour triompher de ses ennemis. Chapitre 4. De quelle manière Kubilai vainquit Nayyam. L'empereur partit donc sur cette assurance et se rendit dans la susdite plaine où Nahiam attendait encore l'arrivée du roi Kédou, qui devait lui amener du secours. Ayant fait camper son armée sur une colline, il y passa la nuit avec tous ses gens. Pendant ce temps-là, les soldats de Nahiam, qui ne se défiaient de rien et qui ne croyaient pas qu'il y eût rien à craindre, battaient la campagne, les uns avec leurs armes, les autres sans armes. Mais, la nuit étant passée et le jour commençant à paraître, l'empereur monta sur le plus haut de la colline. Il partagea son armée en 12 bataillons de 3 000 hommes chacun. Les bataillons furent ainsi ordonnés, à savoir qu'en quelques bataillons, les piétons couvriraient de leurs lances le front des combattants. Le roi était dans un château admirable bâti sur 4 éléphants, où était aussi l'étendard royal. Mais aussitôt que l'armée de Nahiam eut aperçu les enseignes et les camps de Kubilai, elle fut saisie d'un grand étonnement, car le secours qu'elle attendait du roi Kédou n'était pas encore arrivé. Saisie d'épouvante, ils coururent à la tente de Nahiam, qui dormait, et le réveillèrent. Il se leva et mit le plus promptement qu'il put son armée en bataille. C'est une coutume générale parmi les Tartares de sonner de la trompette et de battre de toutes sortes d'instruments de guerre en chantant à perte d'haleine avant que le roi ait donné le signal d'attaquer l'ennemi. De sorte qu'après cette cérémonie, faite dans les deux armées, le roi ordonna de donner le signal aux trompettes et d'attaquer les troupes de Nahiam. Tout aussitôt, le combat fut très sanglant, car l'air fut obscurci d'une grêle de flèches et de traits, et, les machines à jeter des pierres ayant été laissées, les adversaires se tuaient à coups de lance et d'épée. Nahiam était chrétien de nom, mais il ne suivait pas les maximes de la religion chrétienne. Cependant, il avait fait peindre sur son principal étendard le signe de la croix et avait beaucoup de chrétiens avec lui. Le combat dura depuis le commencement du jour jusqu'à midi. Il périt beaucoup de gens dans les deux armées, mais à la fin, Kubilai fut vainqueur et mit l'ennemi en fuite. Dès que l'armée de Nahiam commença à fuir, ce prince fut pris et une grande multitude de fuyards fut mise à mort. Chapitre 5. De quelle manière mourut Nahiam? Le roi Kubilai, ayant son ennemi entre les mains, ordonna qu'on le tuât sur le champ pour punir sa témérité d'avoir osé prendre les armes contre son souverain et fomenter une si noire rébellion. Mais parce qu'il était de son sang, il ne voulut pas que le sang royal fût répandu, ni que la terre en fût imbibée, ni que le ciel et l'air fussent témoins de la mort honteuse de quelqu'un de la race royale. Il ordonna donc qu'il fût mis dans un sac et qu'il y fût lié et secoué jusqu'à ce qu'il fût étouffé. Après qu'il fût mort, les principaux et tout le peuple rebelle qui avait échappé du combat, parmi lesquels il y avait plusieurs chrétiens, se soumirent de leur bon gré à la domination et à l'obéissance de l'empereur Kubilai. Et pour lors, 4 provinces furent ajoutées à son empire. Chapitre 6. Kubilai impose silence aux Juifs et aux Mahométans. Or, les Juifs et les Mahométans, qui étaient dans l'armée de Kubilai, reprochaient aux chrétiens qui étaient tenus avec Nahiam que Jésus-Christ, dont Nahiam avait fait porter le signe sur son étendard, n'avait cependant pu les secourir. Ils réitéraient tous les jours ces reproches pour couvrir de honte les chrétiens et tourner en mépris leur religion aussi bien que la puissance du Christ. Or, les chrétiens qui s'étaient soumis à l'obéissance du roi Kubilai, ne pouvant plus supporter ces outrages, surtout parce qu'ils retournèrent contre l'honneur de Jésus-Christ, en firent leur plainte à l'empereur. Sur quoi il fit assembler les Juifs et les Mahométans et, s'étant retourné du côté des chrétiens, il leur tint ce discours en présence de tous. Votre Dieu et sa croix n'ont voulu donner aucun secours à Nahiam. Mais vous ne devez pas pour cela vous en chagriner ni avoir honte de votre religion, parce que Dieu, qui est bon, est juste aussi, et ne peut par conséquent favoriser le crime et l'injustice. Nahiam était traître à son roi, il avait excité une rébellion contre tout droit et justice. Après cela, il implorait le secours de votre Dieu dans sa malice. Mais lui, comme un Dieu qui est bon et juste, n'a point voulu favoriser ses mauvais desseins. Ensuite, il ordonna aux Juifs et aux Mahométans et à tous les ennemis du non-chrétien de ne pas blasphémer davantage contre le Dieu des chrétiens, ni contre sa croix. et de cette manière, il leur imposa silence. Kubilai, ayant ainsi apaisé le tumulte, s'en retourna rempli de gloire et de joie de sa victoire à sa ville royale de Kambalu. Chapitre 7. De quelle manière le grand Khan récompensa ses soldats. Le roi Kubilai, ayant été vainqueur, récompensa les généraux, les capitaines et les soldats de son armée en cette manière. Celui qui commandait avant cela à ses soldats fut élevé à un plus haut degré, le faisant chef de 1000 et ainsi des autres chefs. Il leur fit aussi présent de vases d'or et d'argent, de tablettes royales, sur lesquelles étaient gravés des privilèges et des exemptions. De côté de ces tablettes était écrit « Par la vertu tout-puissante du grand Dieu et à cause de la grâce qu'il a accordée à l'empereur, le nom du grand Khan soit béni. » De l'autre côté était gravée la figure d'un lion, avec le soleil ou la lune, ou l'image d'un griffon ou de quelconque animal. Or, quiconque a une de ces tablettes avec le soleil ou la lune en plein dessus, lorsqu'il marche en public, on lui porte le pallium pour marque de sa grande autorité. Celui qui a la figure du griffon peut conduire et mener avec lui d'un lieu à un autre toute la milice de quelque prince que ce soit. Et de cette manière, ces tablettes montrent le degré d'honneur et de dignité de ceux qui les possèdent, suivant les différentes choses qui y sont gravées et qui sont significatives du pouvoir qu'elles représentent. Et si quelqu'un refusait d'obéir à la vue de ces tablettes, suivant l'autorité qui y serait exprimée, il serait tué comme rebelle aux ordres de l'empereur. Chapitre 8. Portrait du roi Kubilai, de ses femmes et de ses fils. Le roi Kubilai est un fort bel homme, d'une médiocre taille, ni trop gras ni trop maigre, ayant le visage rouge et ouvert, de grands yeux, le nez bien fait, et tous les traits et les parties du corps fort bien proportionnés. Il a 4 femmes, qu'il regarde comme légitimes, et le fils aîné de la première est son successeur à la couronne. Chacune de ces 4 femmes tient sa cour particulière dans son palais, ayant environ 300 filles pour la servir, et beaucoup d'autres domestiques, chacune ayant bien 10 000 personnes en sa cour. Le roi a, outre ces 4 femmes, plusieurs épouses non légitimes, car il y a parmi les Tartares une certaine nation l'on appelle Ongrak, qui produit de très belles femmes et bien élevées, dont il entretient dans son palais une 100 des plus accomplies. Au reste, le roi a de ses 4 femmes légitimes 22 fils. L'aîné de la première s'appelait Chinsis. Il devait lui succéder à l'empire s'il n'était pas mort avant son père. Ce Chinsis a laissé un fils, nommé Temur, qui est prudent et exercé aux armes, et succédera à Kubilai, son grand-père, à la place de son père. Au reste, le roi Kubilai a 27 garçons de ses femmes non légitimes, qui sont tous du grand seigneur à sa cour. Chapitre 9. De son palais dans la ville de Kambalu et de sa belle situation. L'empereur demeure dans la ville royale de Kambalu pendant 3 mois de l'année, à savoir décembre, janvier, et février. Son palais est d'un artifice admirable. Il a 4 000 en tous sens, 1 000 de long et autant de large. Les murailles en sont élevées de 10 pas et fort épaisses. Elles sont blanchies et rougies en dehors. À chaque coin de ce carré, il y a un magnifique palais, comme autant de forteresses. Et au milieu de chaque mur de l'enceinte est un autre palais somptueux, en sorte qu'il y en a 8 en tout. C'est dans ces palais que l'on garde les armes, les instruments de guerre, les canons et autres machines servant à la guerre, les arcs, les flèches, les carquois, les éperons, les brides, les lances, les massues, les cordes des arcs. Tout cela est serré, chaque espèce dans un palais particulier, de sorte que c'est proprement l'arsenal royal. La face du palais qui regarde le midi a 5 portes, dont celle du milieu est plus grande que les autres. On ne l'ouvre que pour le roi, car il n'est permis qu'au roi d'entrer par cette porte. Mais ceux qui accompagnent le roi entrent par les 4 autres qui sont aux côtés de celle-là. Chacune des 3 autres faces n'a qu'une seule porte au milieu, par où il est permis à tout le monde de passer. Au reste, il y a une seconde muraille intérieure, autre celle dont nous avons parlé, qui a, comme la première, 8 palais, tant aux angles qu'au milieu des côtés. Dans ces palais sont gardés les vases précieux et les bijoux du roi. Or, au milieu de l'espace de carré intérieur est le palais où loge le roi. Ce palais n'est pas bien éclairé, car son pavé est élevé de 10 pommes en dehors, et le toit en est aussi fort haut et orné de belles peintures. Les murailles des cours et de l'enclos brillent d'or et d'argent. Elles sont peintes de différentes manières. Mais particulièrement, on y voit plusieurs traits d'histoire des guerres qui sont représentés avec de vives couleurs, et tout y est éclatant d'or. Dans la grande cour de ce palais, il y a une table où 6 000 hommes peuvent manger ensemble. Entre les deux murailles qui entourent ce palais, il y a plusieurs parcs, plusieurs prés et de nombreux arbres fruitiers et autres. Ces parcs sont remplis de bêtes sauvages, à savoir des cerfs, des animaux qui portent le musc, des chevreaux, des daims et d'autres animaux de diverses espèces. Il y a du côté du septentrion des viviers où l'on nourrit le meilleur poisson du monde. Il entre dans ce lac une rivière qui en sort aussi, mais l'entrée et la sortie sont fermées par des grilles de fer de peur que le poisson ne s'échappe. À 1 lieue, hors du palais, il y a une petite montagne assez élevée qui peut avoir 1 000 de tour et sur laquelle il y a, en tout temps, un plantage d'arbres toujours verts. Le roi a soin de faire conduire sur cette montagne les meilleurs arbres de toutes sortes d'endroits les plus éloignés qui sont chargés sur des éléphants, car on les déracine et on les transplante sur cette montagne. Et parce que cette montagne est toujours verdoyante, on l'appelle la montagne verte. Il y a sur la pointe un magnifique palais où le grand khan se retire souvent pour vaquer à ses affaires. Ce palais est peint aussi de vert. Il y a aussi un autre grand palais ou château près de celui du grand khan dans lequel Temur, son petit-fils et son successeur, tient une cour royale et magnifique. Car il a une très grande autorité et a même le sceau impérial, quoiqu'il soit soumis au grand khan comme à son seigneur. Chapitre 10. Description de la ville de Kambalu. La ville de Kambalu est située sur le bord d'une rivière dans la province de Kathé. Elle est fort ancienne et depuis longtemps le siège des rois. Le mot de Kambalu signifie « ville du seigneur » en langue du pays. Le grand khan la changea de place et la transféra à un autre endroit de la rivière, ayant appris par les astrologues qu'elle devait être belle à l'empire. La ville est faite en carré et peut avoir 24 000 de superficie, chaque côté ayant 6 000 de long. Ses murailles sont blanchies. Elles sont de 20 pas de haut, 10 de large. Elles sont bâties en talus. Chaque long côté de la muraille a 3 portes principales qui font 12 en tout. Auprès de chaque porte, il y a de magnifiques palais. Il y a aussi de beaux bâtiments aux angles des murs qui servent à garder les armes de la ville. Il y a dans cette ville des rues et des places tirées au cordeau, en sorte que l'on peut voir d'une porte à l'autre tout le travers de la ville. Ces rues sont ornées de belles maisons de chaque côté. Au milieu de la ville, il y a une maison où il y a une très grosse cloche, dont on donne le signal tous les soirs par 3 coups, pour avertir que personne n'est à sortir de sa maison jusqu'au lendemain, à moins que ce ne soit pour secourir les malades. Car ceux qui sont obligés, par nécessité, de sortir la nuit, doivent porter de la lumière avec eux. Chaque porte de la ville est gardée par 1 000 soldats, non pas autant par crainte des ennemis que des voleurs et des brigands, car le roi prend beaucoup de soin à ce que cette maudite race soit exterminée. Chapitre 11. Des faubourgs et des marchands de la ville de Kambalu. Hors de la ville de Kambalu, il y a 12 grands faubourgs qui sont contigus aux 12 portes, où l'on trouve beaucoup de marchands et où logent ordinairement les étrangers. Car à cause de la cause du roi et de l'affluence des marchandises qui se trouvent dans ces faubourgs, on y voit tous les jours une grande quantité de peuple qui y vient négocier. Ces faubourgs ne sont pas comme ceux des autres villes, car ils égalent en bâtiment les plus beaux de la ville même, excepté le palais royal. On n'enterre aucun corps mort dans l'enceinte de la ville, mais seulement hors les faubourgs. Les idolâtres brûlent leurs corps morts, mais les autres sectes les enterrent. Il est impossible de dire combien de sortes de marchandises et d'ouvrages on transporte dans cette ville. On dirait qu'il y en aurait assez pour en fournir tout l'univers. On y apporte des pierres précieuses, des perles, de la soie et diverses sortes de parfums de divers pays. Car cette ville est comme le centre où viennent aboutir toutes les provinces voisines, et il ne passe pas un seul jour en toute l'année que les marchands étrangers n'apportent bien près de 1000 chariots chargés de soie, dont on fait des étoffes admirables dans cette ville. Chapitre 12. Le Grand Khan a une fort nombreuse garde. Le Grand Khan a pour sa garde 12 000 cavaliers que l'on appelle Khizit, ou les fidèles soldats du roi, qui gardent sa personne. Cette troupe a 4 chefs, dont chacun commande 3 000 hommes. Leur office est, comme nous avons dit, de garder le roi jour et nuit. C'est pourquoi ils sont nourris à la cour. Voici l'ordre qu'ils tiennent à la cour. Chaque commandant fait la garde avec ses 3 000 hommes. Après quoi, il est relevé par un autre commandant, avec aussi 3 000 hommes, et ainsi alternativement pendant toute l'année. Ce n'est pas que l'empereur ait rien à craindre, mais il fait ainsi éclater davantage sa magnificence. Chapitre 13. Du magnifique appareil de ses festins. Voici de quelle manière on procède dans la pompe et la somptuosité des festins du roi. Lorsque, pour quelque fête ou pour quelque autre raison, le roi veut donner un festin, ce qui se fait ordinairement dans la grande cour de son palais, la table où il doit manger est portée à la partie septentrionale de la cour et plus élevée que les autres tables. Quand le roi se met à table, il a le visage tourné du côté du midi, ayant à sa gauche la première reine, et à sa droite ses fils et ses neveux, et tous ceux qui sont de la maison royale. Leur table est cependant plus basse, en sorte que leurs têtes sont à hauteur des pieds du roi. Les barons et les courtisans et autres officiers de guerre sont encore dans un lieu plus bas, ayant chacun leurs femmes à leur gauche. Chacun tient son rang, et les femmes suivent le rang de leur mari. Car tous les nobles qui doivent dîner à la cour, un jour de fête, amènent leurs femmes avec eux. Et l'empereur même, pendant qu'il est à table, passe en revue des yeux tous les conviés. Hors de cette cour royale, il y a d'autres cours à côté, dans lesquelles, un jour de solennité, il y a quelquefois jusqu'à 40 000 conviés. Les uns sont des courtisans, d'autres viennent pour renouveler leur dépendance de l'empereur. Il y a grande quantité de farceurs et de baladins. C'est pourquoi, au milieu de la cour royale, on pose un vase d'or, d'où découle le vin ou quelque autre liqueur, comme d'une fontaine. Il y a 4 vaisseaux d'or placés çà et là pour recevoir cette douce liqueur, d'où on la puise ensuite pour en servir à tous ceux qui sont à table. Tous ceux qui sont traités dans cette cour boivent dans des vases d'or. On ne peut exprimer le grand appareil ni les quantités de vases d'or et d'ustensiles qui sont employés quand le grand khan donne une fête publique. Les princes, qui servent le roi à table, se couvrent la bouche d'une étoffe fort fine, de peur que leur souffle ou leur haleine ne donne sur le manger et le boire du roi. Et quand l'empereur lève la coupe pour boire, tous les joueurs d'instruments et de trompettes commencent à faire entendre une agréable musique, et tous les courtisans se mettent à genoux. Il n'est pas besoin que je fasse la description des mets de la table du roi, de leur délicatesse et de leur magnificence, ni avec combien de pompe et de splendeur ils sont servis. Le repas étant fini, les chanteurs et les joueurs d'instruments, les nécromanciens et les farceurs, viennent faire leurs concerts et leurs grimaces devant la table du roi, ce qui contribue à le mettre de bonne humeur et à lui procurer une agréable digestion. Chapitre 14. Comment on célèbre le jour de la naissance du roi? Les Tartares observent tous la coutume de célébrer avec beaucoup d'honneur le jour de la naissance de leur prince. Celui de la naissance de l'empereur Kubilai est le 28 de septembre, et il célèbre ce jour avec plus de solennité qu'aucun de toute l'année, excepté les calendes de février qui est le commencement de l'année. Le roi, au jour de sa naissance, est revêtu d'un habit d'étoffe d'or très précieuse. Tous les courtisans sont aussi habillés le plus magnifiquement qu'ils peuvent. Le roi leur donne à chacun des manteaux d'or de grand prix et des souliers faits de peau de chameau et cousus de fil d'argent, en sorte que chacun tâche de faire honneur au roi par sa magnificence, chacun des courtisans ayant l'air d'un roi. Cette pompe ne s'observe pas seulement pour le jour de la naissance du roi, mais dans toutes les fêtes que les Tartares célèbrent pendant l'année, et qui sont au nombre de 13, à toutes lesquelles le roi fait présent aux grands de sa cour d'habits précieux enrichis d'or, de perles et d'autres pierres précieuses, de même que des robes et des souliers, comme nous avons déjà dit. Et tous ces habits des courtisans sont de même couleur que celui du roi. C'est aussi une coutume parmi les Tartares que, le jour de la naissance du grand Khan, les princes et les nobles de son empire envoient des présents à l'empereur. Et ceux qui ont dessein d'obtenir de lui quelques faveurs s'adressent à 12 barons établis pour cela, dont la réponse est comme si l'empereur même avait répondu. Tous les peuples, de quelque secte qu'ils soient, chrétiens, juifs, mahométans, tartares et autres païens, sont obligés de prier leur Dieu pour la vie, la conservation et la prospérité du grand Khan. Chapitre 15. Du premier jour de l'an, jour solennel parmi les Tartares. Le premier jour de février est le commencement de l'année des Tartares. Ils le célèbrent avec beaucoup de solennité, en quelque endroit qu'ils soient. Et tant hommes que femmes s'habillent ce jour-là de blanc, appelant cette fête, à cause de cela, la fête des Blancs, car ils croient que l'habit blanc est d'un bon présage. C'est pourquoi ils s'habillent le premier jour de l'an de cette couleur, espérant que cela leur portera bonheur tout le reste de l'année. Les gouverneurs des villes et les commandants des provinces, pour marque de leur soumission, envoient ce jour-là des présents à l'empereur, à savoir de l'or, de l'argent, des bijoux, des perles, des étoffes précieuses et des chevaux blancs. D'où il arrive quelquefois que le roi, ce jour-là, reçoit 100 000 chevaux blancs. Les Tartares se font aussi des présents les uns aux autres au commencement de l'année. Ils croient que cela est un bon présage pour eux pendant le reste de l'année. Enfin, ce jour-là, on mène à la cour tous les éléphants du roi, qui sont au nombre de 5 000, couverts de tapis sur lesquels sont peints les figures de divers animaux, tant célestes que terrestres, et portant sur leur dos des coffrets remplis de vases d'or et d'argent, qui servent à la célébration de cette fête magnifique des Blancs. On amène aussi beaucoup de chameaux, couverts de très belles étoffes, et qui sont chargés de toutes les provisions nécessaires pour un si grand régal. Dès que le jour des Blancs commence à paraître, tous les ducs, les barons, les officiers, les médecins, les astrologues, les commandants des provinces et des armées, et tous les officiers de l'empereur, se rendent à la cour. Et comme cette place ne peut pas les contenir tous, à cause de la foule du peuple, ils se rendent dans les cours voisines. Chacun étant en ordre, suivant sa dignité et le rang de sa charge, un de la troupe se lève au milieu de la multitude et crie à haute voix « Inclinez-vous et adorez !» Cela étant dit, tout le monde se met promptement à genoux et, mettant le front contre terre, ils font comme s'ils adoraient Dieu, ce qu'ils font par 4 fois. Cela étant achevé, chacun va à son rang à l'autel, qui est posé dans la cour sur une très belle table peinte en rouge et sur laquelle est écrit le nom du grand Khan, et ayant pris un fort bel encensoir, il brûle diverses sortes de parfums sur l'autel et sur la table à l'honneur du grand Khan, et ensuite, ils retournent à leur place. Cet encensement étant fini, chacun offre les présents dont nous avons parlé ci-dessus. Toutes les cérémonies étant achevées, on dresse les tables et l'on sert un magnifique festin où tout le monde se réjouit tant qu'il veut. Après le repas, les musiciens et les farceurs paraissent qui achèvent de mettre les assistants en bonne humeur. Dans ces sortes de fêtes, l'on amène au roi un lion apprivoisé qui se couche à ses pieds, doux comme un petit chien qui reconnaît son maître. Chapitre 16. Des bêtes sauvages que l'on envoie de tous côtés au grand Khan. Pendant les 3 mois que nous avons dit que le grand Khan demeure à Kambalu, à savoir décembre, janvier et février, tous les chasseurs que le roi a dans toutes les provinces du voisinage de Kathé s'occupent à la chasse et envoient au commandant toutes les grandes bêtes qu'ils peuvent prendre, comme cerfs, ours, chevreaux, sangliers, daims et autres bêtes sauvages. Et quand ces commandants sont éloignés de moins de 30 journées de la cour de l'empereur, ils envoient ces bêtes par des chariots et des navires, après les avoir éventrées auparavant. Mais s'ils sont éloignés de plus de 30 journées, ils envoient seulement les peaux, dont on fait des couvertures d'armes. Chapitre 17. De quelle manière le Grand Khan fait prendre les bêtes sauvages à l'aide des bêtes apprivoisées? Le Grand Khan fait nourrir diverses bêtes et, quand elles sont apprivoisées, il s'en sert à la chasse et il prend un grand plaisir à voir battre une de ces bêtes apprivoisées contre une farouche. Il a surtout des léopards apprivoisés qui sont fort propres à la chasse et qui prennent beaucoup de bêtes. Il a des lynx qui ne sont pas moins adroits en cet exercice et des lions très grands et très beaux. Ils sont plus grands que ceux de Babylone, ils ont des poils de toutes sortes de couleurs, blancs, noirs et rouges, et ils sont aussi dressés à la chasse, car les chasseurs s'en servent le plus souvent pour prendre des sangliers, des ours, des cerfs, des chevreaux, des ânes sauvages et des bœufs sauvages. On a coutume de mener deux lions sur une espèce de traîneau pendant qu'on va chasser, qui sont suivis chacun d'un petit chien. L'empereur a aussi plusieurs aigles apprivoisés qui prennent les lièvres, les chevreaux, les daims et les renards. Il y a parmi ces aigles de si audacieux qu'ils se jettent sur les loups avec impétuosité et les fatiguent tellement que les hommes peuvent les prendre après cela sans peine et sans danger. Chapitre 18. De l'ordre observé quand le Grand Khan va à la chasse. Le Grand Khan a deux barons qui sont comme ses grands veneurs. Chacun de ces barons a bien 10 000 hommes sous lui qui ont les tendances de toutes les choses nécessaires à la chasse. Car ils nourrissent de grands chiens et les dressent, et quand le Grand Khan veut prendre ce divertissement et faire une partie de chasse extraordinaire, les deux barons dont nous avons parlé mènent avec eux les 20 000 hommes qu'ils commandent et une grande troupe de chiens, qui sont ordinairement environ 5 000, et vont se placer dans l'endroit où le roi veut chasser. Le roi se tient avec sa cour au milieu de la plaine, et les deux grands veneurs avec leurs gens se tiennent à droite et à gauche du roi. La troupe de l'un de ces grands veneurs est habillée de rouge, et celle de l'autre l'est de bleu. Les hommes de chaque troupe se tiennent côte à côte sur une ligne, et deux de l'autre sont de même vis-à-vis. Ils occupent un si grand terrain de cette manière qu'il faudrait bien employer un jour entier pour pouvoir aller des premiers jusqu'au dernier. Ils ont leurs chiens avec eux, et après qu'ils sont rangés, comme nous avons dit, ils lâchent leurs chiens, lesquels, courant de cette manière par tant d'endroits, ne sauraient manquer de prendre un grand nombre de bêtes. Car ce terrain est fort abondant en bêtes sauvages, il est presque impossible qu'aucune puisse éviter les lacs ou les chiens. Chapitre 19. De la chasse aux oiseaux par le Grand Khan. Le mois de mars approchant, le Grand Khan quitte la ville de Kambalu et s'en va vers les campagnes le long de l'océan, menant avec lui un grand nombre de chasseurs aux oiseaux, environ 1 000, qui ont des faucons, des éperviers et plusieurs autres sortes d'oiseaux de rapine et propres à cette chasse. Il y a bien au moins 500 de ces oiseaux. Or, ces chasseurs se répandent dans les campagnes et lâchent leurs faucons et leurs éperviers sur les oiseaux qui sont là en abondance. Tous les oiseaux qui sont pris, ou du moins la plus grande partie, sont portés au roi. Le roi se tient dans une petite maison de bois, portée par 4 éléphants et couverte de peaux de lion et dorée en dedans. Le roi a pour lui tenir compagnie quelques-uns des principaux de sa cour et 12 éperviers des meilleurs. Autour, et à côté des éléphants qui portent le petit château royal, il y a plusieurs nobles et officiers à cheval qui, dès qu'ils aperçoivent quelques faisans, grues ou autres oiseaux en l'air, avertissent d'abord les chasseurs qui sont auprès du roi, et ceux-ci en avertissent l'empereur et découvrent la petite maison royale où il est et lâchent les faucons et les éperviers. De cette manière, le roi peut voir cette chasse sans bouger de sa place. Ces 10 000 hommes, qui sont employés à cette chasse et qui sont répandus par la campagne deux à deux, prennent garde de quel côté les faucons et les éperviers prennent leur vol et il les secourt en cas de besoin. Ces sortes de gens s'appellent en langue tartare toscaor, qui veut dire garde, et ils ont une certaine manière de rappeler les oiseaux quand ils veulent. Il n'est pas nécessaire que le chasseur qui lâche l'oiseau le suive, parce que ceux dont nous venons de parler ont l'œil et doivent prendre garde qu'aucun ne se perde ou ne soit blessé. Ceux qui sont le plus près d'un oiseau, pendant le combat, sont obligés de le secourir. Les oiseaux que l'on lâche ainsi ont une petite tablette du prince ou de son chasseur, afin que s'ils venaient à s'égarer, on puisse la connaître et la reporter. Si on n'en connaît pas la marque, on la porte à un baron, que l'on appelle à cause de cela en langue du pays, poulargoussi, c'est-à-dire gardien des oiseaux perdus, et il les garde jusqu'à ce qu'on les lui demande. Il en est de même des chevaux ou des autres choses perdues à la chasse. Et quiconque ne porte pas sur le champ ce baron quelque chose qu'il a trouvé à la chasse et s'en sert pendant quelque temps, est puni comme voleur. C'est pourquoi ce gardien des choses perdues fait mettre son étendard sur quelque éminence pendant que la chasse se fait, afin qu'on l'aperçoive de loin, au milieu d'une si grande multitude de monde qui se trouve là, et que par ce moyen, on lui puisse rapporter les choses perdues. Chapitre 20. Des tentes magnifiques du Grand Khan. Pendant que l'on se divertit à l'achat des oiseaux, on arrive dans une plaine où il y a des tentes dressées, tant pour le roi que pour toute sa cour, au nombre d'environ 10 000, qui sont rangées dans l'ordre que je vais dire. Il y a, premièrement, une grande tente sous laquelle 1 000 personnes peuvent aisément loger et dont l'entrée regarde le midi. C'est là que logent les barons, les nobles et les officiers. Auprès de celle-là, il y en a une autre vers l'occident qui est comme la cour et le conseil du roi et où il entre lorsqu'il veut parler à quelqu'un. Il y a dans un quartier de cette tente un lit où le roi couche. Il y a encore d'autres chambres, cours et appartements auprès de cette tente royale. Voici comment sont bâties les tentes du roi, c'est-à-dire celles où est son lit, sa cour et son conseil. Elles sont soutenues chacune par 3 colonnes de bois de senteur, ornées de sculptures, couvertes de peaux de lions rouges et noirs, car il y a dans ce pays-là des lions de différentes couleurs. Ces tentes ne sauraient être endommagées par les vents ni par la pluie, parce que les cuirs dont elles sont couvertes sont assez forts pour résister à toutes les injures de l'air. Les dedans des tentes sont tapissés de riches peaux d'hermine et de zibeline, quoique ces peaux soient très rares et très chères en ce pays-là. Les cordes qui soutiennent ces 3 tentes sont de soie. Autour de ces 3 tentes royales, il y en a plusieurs autres pour les femmes et les filles du roi. Il y en a encore pour les faucons, les éperviers, les hiboux et les autres oiseaux qui servent au plaisir de la chasse. Enfin, il y a une si grande quantité de tentes qu'on dirait, quand on approche du camp, que c'est une très grande ville. Il y vient aussi une grande multitude de curieux pour être les témoins d'un si beau spectacle, outre ceux qui sont destinés aux offices du roi et qui ont leur tente tout comme ils ont leur logement dans la ville de Kambalu. Par exemple, les médecins, les astrologues et les autres devins du roi. Le roi demeure dans cette plaine pendant tout le mois de mars, et pendant ce temps-là, on prend une infinité de bêtes et d'oiseaux. Autrement, il n'est permis à personne de chasser dans toutes les provinces de ce royaume-là, du moins à 20 journées d'un homme de pied à la ronde, ni aussi d'avoir aucun chien ou oiseau de chasse. Il est principalement défendu, depuis le commencement du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, de prendre, de quelque manière que ce puisse être, des cerfs, des daims, des chevreaux, des lièvres et autres bêtes de chasse. C'est pour cela aussi que ce pays-là abonde en toutes sortes d'animaux, et la plupart sont si familiers avec les hommes qu'ils passent souvent auprès d'eux sans s'effaroucher. Le roi, après avoir traité pendant 3 jours tous ceux qu'il a invités à cette chasse, se retire à sa maison et permet à chacun de retourner chez soi.